Cube Radio.
Les Vikings poursuivent leur mission cette semaine à domicile contre les Cowboys. MVP, MVP, MVP. Les Dolphins et leur carrière, Tua Tagovailoa, sont en tête de la division Est de l'Américaine. Laurent Duvernay-Tardif de retour avec un prétendant au Super Bowl. On en parle avec son agent, Sacha Gavamy. C'est la semaine 11 de la NFL. Ne manquez pas nos prédictions cette semaine avec une game à Buffalo sous la neige. Et on va au bar cette semaine. On y trouvera Tom Brady et qui d'autre? Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Nicolas Gagné. Je suis en compagnie de l'expert football du Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette. Salut, Steph.
Salut, mon grand voyageur. Comment ça va?
Bon, très bien, merci. Bon. En effet, j'étais à Miami en fin de semaine. Je suis allé voir les Dolphins.
Un vrai partisan.
Quel match épique. Un bon match. Écoute, comme partisan des Dolphins, là, c'est assez rare que le quart arrière substitut termine le match les cinq dernières minutes parce que le match est dans la poche. Là, ça faisait longtemps que j'avais vu ça. C'est ce qui est arrivé en fin de semaine. On peut en parler un petit peu, si tu veux, quand même, Stéphane, des Dolphins.
Ben oui. Parce que,
au-delà de mon expérience personnelle à Miami, il faisait beau, le stade était plein.
Les gens étaient... Étais-tu dans la section des gens qui cuisent ou dans les gens à l'ombre?
J'étais à l'ombre.
J'avais prévu ton coup, là. Un vrai partisan habitué.
Exact. J'étais à l'ombre et il faisait très chaud. Là. C'est sûr que l'idée de l'avantage du terrain à Miami en ce moment, avec les joueurs des Dolphins qui sont à l'ombre et l'équipe visiteur qui est au soleil, c'est vrai qu'il doit y avoir à un certain moment donné un confort que les joueurs des Dolphins profitent, que l'autre équipe n'a pas, mais c'était pas, il y a eu des passages nuageux, c'était pas comme une grosse journée à 100 Fahrenheit.
Puis tu sais, t'as eu une belle ambiance, j'imagine, avec l'équipe à 6-7-3 là, aujourd'hui, après la victoire 7-3. Tu sais, moi, il y a bien du monde qui disait avant, je vais aux Dolphins, mais c'est pas super. Il y a autant de monde de l'autre équipe que des Dolphins. La foule est pas très haute. Cette année, j'imagine, tu as vu une belle différence.
Ouais, c'est sûr que la foule des Dolphins, on dit souvent qu'à Miami, les gens vont aux Dolphins entre deux sorties à la plage. Tu sais, il y a beaucoup de choses à faire à Miami. Souvent, les gens prennent même pas leurs billets. Mais cette année, c'est pas le cas, là. Tu sais, les prix sont beaucoup plus élevés d'abord. C'est pas juste le cas à Miami. Quand une bonne équipe, quand une équipe fonctionne, ça va bien. Regardez à Buffalo, là. Si les gens qui nous écoutent, qui s'en vont voir des matchs à Buffalo. Moi, j'ai eu des billets de saison à Buffalo. Je pense que le coût d'un billet pour un match en ce moment équivalait au montant que j'avais payé à l'époque pour mes billets de saison à Buffalo. Ça donne une idée à quel point là, les prix augmentent dans la revente quand l'équipe va bien. Puis c'est le même, c'est le cas à Miami. Puis là, mais c'est sûr que sur le terrain, il y a toute la question d'inclure toi dans la discussion autour du MVP s'est cimentée avec sa performance de la fin de semaine. Je pense que les Dolphins ont une bonne équipe, une équipe qui n'est pas encore mature. La crainte, puis je sais pas si tu as partage, là, mais la crainte, c'est que c'est une équipe faite pour les conditions météo parfaites.
Et voilà. Il faut pas jouer leur style tout en finesse. Je les vois pas aller jouer à Buffalo, à Kansas City en janvier, même à Baltimore, admettons. Ça pourrait être difficile là, parce que tu sais, c'est pas encore une équipe nécessairement totalement complète, là, si on peut dire. Leur attaque, par contre, là, Jean-Nic, moi, je dirais qu'en ce moment, il n'y a pas un chat qui veut les affronter. Là. C'est vraiment redoutable. Ça fesse de partout. Je trouve que Jeff Wilson, dans le champ arrière, c'est une très belle addition. Tu sais, c'est une addition sous-estimée. Quand ils ont fait le move à la date limite des échanges, ouais, OK, ils ont obtenu Jeff Wilson. C'est un porteur de ballon des Niners. C'est correct. Mais honnêtement, il est en train de transformer le jeu au sol. Ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Mais je suis d'accord avec toi sur le point que c'est un club qui doit conserver son avantage du terrain, doit jouer un match de série à Miami. Je pense que ça peut faire toute la différence dans leur style.
Et là, c'est rare qu'on se pose ces questions-là, mais il y a aussi un gros point d'interrogation sur le kicker. Là, tu sais, là. Jason Sanders, qui était un très, très bon botteur de placement, on lui a donné un gros contrat à Miami. Et là, il a raté en fin de semaine deux transformations. Ça fait plusieurs semaines qu'il manque des placements de courte distance. Ça aussi, là, tu sais, on rit d'eux souvent, là, mais t'en allais en série sans un bon batteur, là. Ouais. C'est un risque.
C'est un risque, c'est sûr, mais honnêtement, quand tu regardes la façon dont cette attaque-là joue, ça compense. Je suis pas sûr que je m'empêcherais de dormir pour ça comme partisan. Tu parlais de Tua qui s'est hissé dans la conversation MVP. Pour moi, ça, il n'y a plus de doute, là. Écoute, il y a 18 passes de toucher, puis oublie pas une chose, il y a seulement 6 matchs complets, là, Tua. Là. Il y a quoi? Il y a 2 matchs qu'il a dû quitter.
Il y a 2 matchs qu'il n'a pas joué du tout, puis un qu'il a quitté en première demi.
Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça. Puis quand même, il se retrouve avec 18 passes de toucher. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus dans son cas, c'est sa moyenne de verges par tentative de passe. 9,1 verges par tentative de passe, 12,9 par passe complétée. Pourquoi je te parle de ça? C'est pas juste pour balancer des chiffres comme ça, c'est qu'on a dit pendant 2 ans, Tua, il est allergique au long jeu, il n'y a pas de bras, il est pas capable, il voit pas loin dans sur le terrain. Il est en train de prouver que c'est un corps arrière, que lorsqu'on lui donne les atouts, ben, il est capable en masse. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il y aura toujours ses détracteurs, parce que là, maintenant qu'il est bon, qu'il est même dans la conversation pour le MVP, ouais, mais tu sais, c'est normal, il y a Waddle, il y a Hill, on a été chercher Tyrone Armstead sur la ligne à l'attaque. Fait que bref, c'est comme si c'est lose-lose pour Tua, parce que maintenant que ça fonctionne bien, c'est grâce à ce qu'on a mis autour, puis on dirait qu'il n'y a pas une façon d'aller chercher vraiment clairement le respect. Moi, je trouve qu'il y a eu une différence marquée là, lorsqu'il n'était pas là avec l'attaque des Dolphins. Honnêtement, je suis quand même franchement impressionné là, par son jeu cette saison.
Ben, pour finir là, là-dessus, Tua, sur place, là, la façon dont il place le ballon pour ses receveurs, là, j'ai vu quand même plusieurs matchs en vrai, sur place, là, mm-hmm. Et c'est vraiment unique. Là. Il place, c'est comme s'il y a un plaisir à donner le ballon là, à un endroit précis où le joueur de défense ne pourra pas l'atteindre. Franchement, les partisans des Dolphins sont encouragés par le. Parce que ce que Tua fait sur le terrain, puis aussi hors du terrain, là, tu sais, là, c'est un gars affable qui donne le crédit à tout le monde sauf à lui. Il est en train de développer une belle complicité avec le coach Mike McDaniels. Écoute, là, on est à la mi-saison, là, il y a bien des choses qui peuvent s'effondrer, mais pour l'instant, il fait beau vivre à Miami, il fait bon vivre à Miami quand t'es un partisan des Dolphins. Mais
content pour toi, Jean-Luc.
Parfait. Je te remercie parce que ça fait 20 ans, imagine, que les Dolphins n'ont pas été 7-3 dans un début de saison.
Ouais, 2001.
Fait que, en 2001, j'étais à l'université. Non, j'étais à l'université encore. Là. Okay. Ça prouve que, d'un, que je suis un érudit, de deux, que ça fait longtemps. Bon. Il reste que l'histoire de la fin de semaine, Steph. Là. Bien beau, les Dolphins, là, mais. T'es mauve, là.
Ouais.
Puis, juste pour finir, pour faire le pont, là, quand le match des Dolphins s'est terminé, et on savait tous, les partisans des Dolphins, que si les Bills perdaient, les Dolphins se retrouvaient en première place de la division, tout le monde suivait le match sur son portable en sortant du stade. T'entendais des cris partout, là, tu sais, là, quand il y avait un toucher, quand il y avait un jeu. Et Dieu sait qu'il y en a eu des jeux importants, là, dans les dernières minutes.
Écoute, dans les deux dernières minutes, il y a eu plus de jeux que dans ben des games au complet cette année.
Mais quel match! Puis, toi, là, on parle de partisan à partisan, on s'excuse, mais ça a dû être une montagne russe d'émotions pour tes mauves, là.
Ah, ben, moi, c'était fini. Après ça, on gagnait. Après, c'était fini. Après, hop, on va chercher la victoire. Ça arrêtait pas. Le terme est bon, montagne russe, carrément. Là, écoute. Quand Kirk Cousins rate sa faufilade du corps à la porte des buts, c'est fini ce match-là, en théorie. Là. Les Bills, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de sortir le ballon de leur zone, mais ils n'ont jamais pu un mauvais échange entre le centre Mitch Morse et Josh Allen. sais, pour moi, on a appris deux choses dans ce match-là, Jean-Nic, c'est que les Vikings sont sérieux. Peu importe, ils auraient perdu ce match-là, j'aurais dit la même affaire. Parce que ils battaient des clubs plus ou moins convaincants, de manière plus ou moins convaincante. Fait que le doute restait, tu sais, ça s'alimentait de semaine en semaine. Là, honnêtement, gang ou peur, ils ont donné toute une go aux Bills. Puis pour ça, ils méritent d'être considérés comme une équipe vraiment sérieuse. Il n'y a plus de doute dans mon esprit. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas échapper le prochain match contre les Cowboys. Là, c'est pas. Je dis pas ça en voulant dire maintenant ils en perdent plus une. Ce que je dis, c'est on n'a pas le choix de les prendre au sérieux. C'est une vraie équipe qui fonctionne bien à tous les niveaux. Puis l'autre chose, moi, que j'ai appris, c'est que Josh Allen, si ça continue comme ça, écoute, je suis très inquiet, il fera pas 10 ans dans la ligue. Là. Il se protège pas, il s'expose, il était blessé au coude. Oublie pas que jusqu'à la toute fin, on se demandait si c'est lui qui allait jouer. Puis je comprends, c'est son style, c'est son ADN de jouer comme ça avec le ballon, de courir, de prendre des contacts. Puis sortez-moi pas, là, écoute bien, 6 pieds 5, 245 livres, là, on le sait ça. Mais Cam Newton, lui, à 28 ans, là, il était fini. Fini. Puis pourtant, il en a renversé des linebackers puis des safeties dans sa carrière, Cam Newton. Puis il semblait inarrêtable en 2015. Deux ans plus tard, il était pété de partout. Moi, j'adore Josh Allen. Je l'adore. Je trouve qu'il amène beaucoup de valeur ajoutée là, dans le spectacle pour la NFL. Puis je veux qu'il dure longtemps. Je commence pas à demander là, qu'il se couche à tous les jeux. Mais il y a des jeux où aller chercher une demi-verge de plus, ça changera rien au parcours des Bills. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience à faire de ce côté-là. Aussi, Josh Allen, aussi bon soit-il, très négligent depuis trois semaines avec le ballon. Moi, ça fait peur.
L'autre aspect aussi qui m'inquiète, Josh Allen, c'est que il prend pas ce qu'on lui donne. Tu sais, ça, c'est aussi... c'est pas pour rien qu'il a lancé, quoi, 6 interceptions dans les 2 ou 3 derniers matchs?
Les 3 derniers, ouais.
Tu sais... Les gars comme Patrick Mahomes puis Josh Allen puis les gars qui se font dire hey toi là tu fais des jeux incroyables tu sais t'es bon là tu étires le jeu puis tu fais des jeux incroyables fait que là ça leur rentre dans la tête là tu sais quand ils voient là quelqu'un dans la zone début qui est libre mais lui il dit hey, moi je suis capable de faire ce lancer là t'as un autre corps arrière Andy Dalton il va prendre le gars à côté mais moi je suis pas Andy Dalton moi je suis Josh Allen puis je vais l'avoir.
Mais en même temps, c'est embêtant, puis c'est une très bonne discussion qu'on a là, parce que tu veux que Josh Allen soit Josh Allen, tu veux que Patrick Mahomes soit Patrick Mahomes, tu sais, on les aime parce que, excusez-moi le terme, là, mais c'est des gunslingers, c'est leur mentalité, ils sont agressifs, donc c'est d'aller trouver ta limite, ton juste milieu, ton équilibre, ta balance, dis-le comme tu veux, mais il y a un moment donné où il faut que tu fasses les gros jeux, puis t'es le corps arrière spécial, unique pour les faire, mais tu peux pas être négligent comme il est en ce moment avec le ballon. Le Josh Allen, moi, je revois le Josh Allen de ses débuts là, depuis 2-3 matchs. Des interceptions, des fois, là, que tu te grattes la tête puis tu veux t'arracher les cheveux en te disant comment ça se fait qu'il a lancé là, qu'est-ce qu'il a vu exactement. Donc, c'est pas des choses là, que tu dis « Ah, je comprends ». Je vois un peu non, ce qu'il voulait faire.
Son interception, c'était quoi? C'était 2e essai?
Ouais, de mémoire, oui. Tu parles de la dernière dans zone début?
Oui, en prolongation.
De mémoire, 2e essai, là, mais ouais.
Ben, je suis pas mal sûr, moi aussi. Puis, il y avait un check down, là, tu sais, là, qu'il pouvait prendre, là, qui était à côté. Il n'y avait pas de raison de tirer dans zone début dans le trafic comme ça. Je comprends que c'est un gunslinger, mais ça, c'est. Dans ma tête, c'est quelqu'un qui s'est dit. Je vais l'avoir parce que je suis Josh Allen. Alors que toutes les autres carrières auraient dit 2e essai, je vais prendre ce qu'on me donne, je vais avancer, ouais, je perdrai pas le match, tu sais.
C'est la même chose avec les courses, tu sais, l'aspect que je parlais tantôt, c'est qu'à un moment donné, c'est Josh Allen, je comprends, tu veux pas le voir glisser tout le temps comme s'il allait voler le 2e but à chaque jeu. Là. C'est pas ça, c'est pas Josh Allen, ça arrivera jamais. Mais est-ce que tu peux à tout bout de champ sortir des lignes? Est-ce que tu peux à tout bout de champ dire ce contact-là n'en vaut pas la peine d'être pris, d'être encaissé? Parce que à long terme, c'est sûr que ça va laisser des séquelles. Moi, je peux pas croire. Donc, Josh Allen, moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Son jeu, je pense que ça va se replacer. Là, c'est pas un problème qui. C'est pas un corps arrière qui soudainement a des problèmes de vision. Ça va se placer. Je suis pas inquiet de ce côté-là, mais du côté de sa protection personnelle, il est en train de s'auto-maganer, Josh Allen. Il y a des choses qu'il pourrait éviter en ce moment. Personne ne va pouvoir me convaincre que tout ce qu'il fait. Ça sert à 100% là, la cause, parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, ça va le rattraper. Puis je veux pas que ça le rattrape. Moi, Josh Allen, je veux le voir encore à son niveau qui est actuellement, mais à 30, 32, 33 ans.
Ouais.
J'espère.
C'est parce sûr que c'est pas son genre de se ménager. OK, Stéphane, on s'arrête là-dessus. Et après la pause, on parle avec Sacha Gavamy qui, lui, a une belle journée. Il va annoncer aujourd'hui la signature de Laurent Duvernay-Tardy. Bougez pas.
Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
On est de retour à la zone payante. Merci de vous joindre à nous. Grosse nouvelle dans le football, en tout cas, ce qui a trait aux joueurs québécois qui évoluent dans la NFL. Laurent Duvernay-Tardif est en chemin pour les Jets de New York. Et pour en parler, on a son agent, Sacha Gavamy, qui est avec nous. Bonjour, Sacha.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va bien. Ben là, ça va bien. On est toujours heureux, nous. Là. Anthony a signé il y a quelques semaines. Benjamin Saint-Just connaît des très bons matchs. Puis là, Laurent Duvernay-Tardif qui fait un retour dans la NFL, pour nous, ça peut pas mieux aller. Je présume que ça va bien aussi pour toi. Là. Vous êtes content des démarches qui ont été entreprises dernièrement?
Ouais, c'est sûr que c'est excitant, tu sais, de notre point de vue, Laurent, là, quand il a commenté ses prochaines étapes au mois de juin, il n'avait jamais annoncé de retraite. C'était exprès parce qu'il n'avait pas fermé la porte à un retour au jeu. Il avait évidemment, il devait débuter sa résidence en médecine, ce qu'il a fait, mais il avait l'opportunité de renouer avec le football cette saison s'il le désirait, si une belle opportunité se présentait. Depuis le printemps, on avait plusieurs discussions avec plusieurs équipes, notamment, tu sais, puis notamment les Jets. Et après ça, depuis septembre, il y a plusieurs équipes avec qui on parle. Et pour faire à mesure que la saison avançait, Laurent avait un certain timing dans lequel il se voyait joindre une équipe, mais aussi avait ses priorités. Puis je pense que la priorité numéro un, c'est de un, il voulait avoir du fun. Il sait que à quel point c'est un privilège de jouer dans la NFL, puis à quel point c'est un privilège de pratiquer ce sport-là, puis de faire partie d'une équipe au niveau professionnel dans la NFL, mais aussi d'une équipe qui avait des chances de jouer du football significatif en décembre, janvier. Puis
La dernière fois qu'on s'était parlé, Sacha, tu nous disais que peut-être Laurent contemplait la retraite, il attendait, comme tu dis, l'espèce de moment là où il y aurait toutes les conditions réunies. Mais tu nous dis aussi que ça jamais le dialogue n'a jamais été clos là, avec les Jets. Il y a toujours eu des discussions et vous êtes toujours tenté de vous entendre pour un retour.
Oui, en fait, il n'y avait pas eu de réflexion à la retraite. C'est-à-dire, il n'y avait pas eu de décision d'une retraite. Il n'y avait pas une annonce de retraite en juin. Ce qui était annoncé, c'est que je dois commencer ma résidence, mais je garde la porte ouverte pour la NFL. Puis c'était fait exprès. Plusieurs ne croyaient pas parce qu'ils pensaient que c'était une façon pour lui de se retirer. Mais Laurent, c'est un gars de parole. Quand il dit quelque chose, c'est rare qu'il le fait pas. Puis la journée qu'il va annoncer une retraite, c'est que d'après moi, ça va être une retraite, ça va être définitif. Mais les Jets, ça a toujours été des discussions qui se sont maintenues, un intérêt qui était marqué depuis la fin de la saison. Pour des questions de timing avec la résidence en médecine, on pouvait pas signer, évidemment. Puis là, avec la saison que les Jets connaissent, ils sont en bonne position de battre pour une place en série. Puis si Laurent peut contribuer à ça, de peu importe la façon qu'il peut contribuer, que ce soit comme partant réserviste, peu importe, il verra avec le temps. Ça, c'est des choses qui se dictent par ses performances puis par les décisions des entraîneurs. On s'en fait pas avec ça. Mais lui, c'est vraiment par le plaisir de renouer avec une équipe puis de participer à ça pour le restant de la saison.
Sacha, on sait que Laurent, pour l'instant, en tout cas, a été embauché sur l'équipe de réserve, mais on sait ce que c'est dans la NFL, ça peut bouger vite, il peut se retrouver vite sur l'alignement régulier. À quel point il est en forme, à quel point il y a eu un entraînement réel de football, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Puis est-ce qu'il serait prêt à commencer là, si son nom était appelé rapidement?
Non, il est en pleine forme. Au niveau, tu sais, faut comprendre la réalité de la NFL depuis la pandémie avec les nouvelles règles pour le practice squad. La NFL a instauré des règles qui permettent aux équipes d'amener des vétérans sur le practice squad et de les, potentiellement, s'ils veulent les faire jouer sans les signer sur le 53, les élever au 53. C'est une nouvelle réalité que les amateurs de football qui suivent le foot depuis 15-20 ans ne sont pas habitués. Mais c'est la réalité qu'on vit maintenant. Donc, débuter sur l'équipe de pratique, comme vétéran, quand tu joins une équipe mi-saison, c'est tout à fait légitime, tout à fait normal. Maintenant, sa mise au niveau de sa forme physique, il est en super forme. L'équipe était vraiment impressionnée par à quel point il était en forme hier. Je pense que il y a toujours une petite mise en forme au niveau football shape, tu sais, d'être prêt à frapper des gars, à bloquer, tu sais, c'est des choses qui tu peux pas être prêt tant que tu l'as pas fait. Mais je te dirais, Stéphane, que si son nom était pour être appelé dans un horizon de court terme, il serait prêt à le faire.
Sacha, est-ce qu'il y a un horizon là, qui vous a été promis pour Laurent en termes de pouvoir embarquer sur le terrain? Je sais que dans la NFL, il n'y a pas vraiment de garantie, mais est-ce que c'est quelque chose dont vous avez discuté avec les Jets?
Aucune garantie. Tu sais, Laurent, il connaît bien les Jets. Il a joué pour eux l'année passée. Il a fait partie un peu de la reconstruction d'une certaine façon, a amené une stabilité à la ligne offensive quand il s'est joint D'ailleurs, les statistiques ont montré que le jeu de course s'est beaucoup amélioré à son arrivée et il y a beaucoup de belles choses. Je pense que Coach Shala a été élogieux à son égard hier en conférence de presse. Tu sais, il est aimé dans le vestiaire, il est aimé dans l'organisation. Au final, Laurent s'en va là. Il sent pas parce qu'il y a des promesses, quoi que ce soit. Il le voit comme une opportunité de faire partie d'une équipe qu'il connaît, une équipe qui a déjà fait partie, qui vont bien, puis ils ont eu des blessures à la ligne offensive. Il se dit, si je peux aider cette équipe-là, peu importe le rôle qu'on me donne, ça me fait plaisir de le faire puis de le vivre à fond avec cette équipe-là. Puis je pense que c'est une bonne philosophie. Laurent a joué beaucoup de matchs. Laurent a beaucoup d'expérience dans la NFL, a gagné un Super Bowl comme partant avec les Chiefs. On a vécu beaucoup. Mais d'aborder ça avec cette mentalité-là, je trouve ça exceptionnel. Puis je trouve que c'est la bonne façon de l'aborder. Puis à partir de là, on verra ce qui se produit.
Puis j'aurais le goût de te demander aussi la question évidente que plusieurs auditeurs se posent, j'en suis convaincu. Puis connaissant Laurent, je m'attends un petit peu à la réponse que tu vas me donner, mais quand même, il faut que je te le demande. Est-ce que pour lui, cette fois, c'est le dernier tour de piste ou vous avez pas encore vraiment statué là, là-dessus?
je me demandais quand cette question-là allait arriver, mais non, c'est sûr, tu sais. Laurent là, depuis le début, depuis que je le connais, depuis au Cégep, mais depuis qu'on travaille ensemble surtout, il y a une chose qui me ramène toujours à l'ordre quand on se parle, c'est quand je me projette trop dans le futur. Ok, quand je me projette, il aime pas ça. Puis c'est un gars qui vit beaucoup le moment présent, puis ça fait beaucoup son succès. C'est projetons-nous pas, on devrait pas se projeter, on devrait focusser sur le maintenant. Fait que tu peux imaginer que c'est pas nécessairement des discussions qu'on a eues en détail. Mais au point où ce que Laurent est rendu depuis quelques années, on vit ça année par année. Puis, comme je disais en début d'entrevue, si Laurent ne voulait plus jouer, il aurait déjà annoncé une retraite. Il avait encore la flamme de jouer, mais dans des bonnes circonstances. Les circonstances actuelles sont positives pour lui. Ils font plein de sens. Puis, si après la saison, il décide de pas continuer, il décidera ça. S'il veut continuer, il continuera. Mais on n'est pas, c'est pas au stade où ce qu'on annonce, OK, c'est son dernier tour de piste, puis ça va se finir là. C'est pas nécessairement le cas. On verra après la saison. Puis si c'est le cas, c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Je sais que c'est pas la réponse claire que t'aurais voulu, Stéphane, mais c'est pas mal là où est-ce qu'on s'en situe. Il va le savoir quand c'est fini. Tu sais, puis quand ça va être fini, il va l'annoncer, puis il va être bien là-dedans. Puis c'est un peu la discussion qu'on avait on se le cachera pas. C'est des discussions qu'on avant d'entamer un contrat, d'avoir des négociations, à tous mes clients, ma question, c'est veux-tu continuer à jouer, tu sais. Puis au printemps avec Laurent, ben il y a toujours eu la question de la résidence et tout, mais nonobstant ça, tu sais, même depuis l'automne, tu veux-tu jouer, tu veux-tu jouer. Puis la réponse n'était pas non. La réponse n'était pas non. La réponse était si l'opportunité fait du sens, puis ça répond à mes critères, mes priorités, ben oui. Puis on a eu des offres, tu sais, on a eu des offres cet automne. Avant les Jets de d'autres équipes, puis on ne les a pas prises pour plusieurs raisons, mais quand les Jets se sont manifestés, puis surtout en voyant leur leur progrès cette saison. Puis, tu sais, ils sont à 6-3. Ça va être des matchs importants d'ici la fin de l'année pour essayer d'atteindre les séries éliminatoires. Puis, en série, tout peut arriver. Fait que, tu sais, je pense que Laurent, de pouvoir faire partie de ça, il est bien excité.
Parle-nous un peu d'Anthony Auclair. On sait qu'il a signé avec les Titans dans les dernières semaines. Est-ce que tu penses le voir jouer un match bientôt? Est-ce qu'il va embarquer sur le terrain? Je sais pas s'il était actif en fin de semaine, là, j'avoue, mais les autres semaines, je l'ai pas vu activé. Est-ce que tout va bien pour Anthony dans son nouvel entourage?
Ben oui, Anthony adore l'organisation des Titans. Je pense que découvre une équipe d'entraîneurs, une équipe de dirigeants super humains qui tiennent aux joueurs, qui beaucoup de positifs. Encore une fois, même scénario, tu joins une équipe mi-saison, une équipe qui va bien aussi. Je pense que c'est important de focusser sur ce que tu contrôles. Puis en même temps, il y a beaucoup de positifs, découvre l'organisation et tout. Puis Anthony, c'est un vétéran, 56 matchs habillés dans la NFL, c'est pas rien. Donc aussi, tu sais, comme tous les joueurs dans cette position-là, on prend ça au jour le jour. Puis l'important, c'est d'être bien dans ce que tu fais. Puis tant que t'es bien, ça va. C'est quelque chose dans lequel tu peux rester, y a pas de problème. Mais les Titans, c'est une organisation qui est très bien jusqu'à maintenant, puis que Anthony est très heureux.
Donc tu vois pas, il y a pas de promesse non plus du côté d'Anthony de voir le terrain d'ici la fin de la saison. Il fait partie du groupe, il en est satisfait, mais pour l'instant il y a pas de à moins d'une blessure, l'équipe va bien, ils vont garder l'équipe intacte, c'est un peu ce que j'entends.
Il y a jamais de promesse dans la NFL, honnêtement. On le savait ça quand on s'est entendu avec les Titans. L'idée c'est simplement de découvrir quelque chose d'autre, puis de s'assurer que ça rentre dans des priorités. Puis on verra qu'est-ce que l'avenir réserve. Les Titans vont bien, hein? Ils ont gagné beaucoup de matchs récemment.
Ah oui, c'est ça. On parle de Mike Vrabel comme l'entraîneur de l'année. Alors, juste de le côtoyer pour Anthony, ça doit quand même être intéressant aussi, là.
Oui, puis tu rencontres d'autres acteurs clés dans la NFL et tout. Donc, c'est important, puis je pense que c'est très positif à cet égard-là.
Sacha, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de faire rayonner tes gars. On est très fiers d'eux autres. Et on espère que ça va bien aller avec Laurent à New York. Même si, comme partisan des Dolphins, j'espère pas les voir trop proches de la tête.
Mais ça me fait vraiment plaisir, les gars. Merci de m'avoir reçu. Puis on se tient au courant.
Merci. Salut.
Bon, bye bye. Question
du public. Vous êtes sur La Zone payante, un podcast de Cube Radio. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadaret. C'est le moment de répondre aux questions du public. Wouhou!
Oh, content. C'est toujours un bout qu'on aime, ça.
Martin Lambert nous pose la question. Est-ce que les 49ers sont maintenant favoris pour gagner leur division? Hey, moi, j'ai vu des power rankings. L'affiche des 49ers, là, les mêmes qui est pas une 8-1 ou 7-2 ou 7-3, ouais. Mais pourtant, ils sont top 5 dans bien des power rankings.
Ouais, moi, dans le mien, si je me trompe pas, sont 9e. C'est une fiche de 5 et 4, mais c'est comme si on projette un peu dans le cas des Niners, parce que il y a eu un début de saison bourré de blessures. Ils se sont maintenus juste la tête sortie de l'eau. Là, c'est comme si on pense que ça peut aller vraiment mieux. Moi, je le crois, en tout cas. Puis pour répondre à la question de Martin, merci d'abord, Martin. Je pense que c'est la première fois là, qu'on a une question de Martin Lambert. Moi, à mon avis, oui, ils sont favoris pour gagner leur division. Je comprends que les Seahawks sont devant eux en ce moment. Mais tu regardes leur calendrier, les Niners, au moment où on se parle, il y a 6 adversaires dans leur liste d'adversaires à venir qui jouent pour 500 ou moins. Ça peut changer d'ici là. Évidemment, un club à 500 peut soudainement devenir un club gagnant. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup de grandes puissances là, qui s'en viennent là, dans leur dernier mois de la saison. Je trouve que c'est une équipe plus à maturité que les Seahawks aussi. Là. Défensivement, surtout, c'est une défensive qui est vraiment de calibre de championnat, celle des Niners, alors que celle des Seahawks, c'est une défensive qui est en progression. C'est comme ça que je le vois. Puis pour ce qui est des Rams, des Cards, ben je pense que la pente va être trop dur à remonter. Là, ils se sont creusés un trou pas mal. Donc oui, moi, je vais les Niners comme les favoris pour la division Ouest.
Régent Perron nous pose la question. On a beaucoup parlé de statistiques avancées cette semaine, mais il me semble que plusieurs équipes en arrachent en tentant le quatrième essai. Qu'en pensez-vous? Et surtout la décision de Dallas en temps supplémentaire, alors que Dak Prescott a raté sa passe lors du quatrième jeu.
Oui, puis ça, c'est toute une affaire, là, les statistiques avancées. Maintenant, chaque équipe ou presque a son personnel attitré aux statistiques avancées. Il y a même des chartes avec toutes sortes de données disponibles pour les entraîneurs quand c'est le temps de prendre des décisions. Est-ce que je dégage? Est-ce que je tente le placement? Est-ce que j'y vais pour le quatrième essai? À quel moment on est dans le match? Il y a combien de verges à faire? Comment la défensive de l'autre côté fonctionne? Tu sais, c'est tout est calculé. Mais des fois, je me demande si on perd pas simplement le gros bon sens là-dedans. Tu sais, puis l'exemple des Cowboys est bon. On tente le quatrième essai en prolongation au lieu d'y aller pour un botté qui aurait pas donné la victoire aux Cowboys, mais qui leur aurait au moins donné un coussin là, puis espéré bloquer les Packers après. Puis on était dans un contexte pourtant où l'attaque produisait plus grand-chose depuis plusieurs séquences. Dak Prescott, qui était 4 en 11 à ce moment-là, avec deux interceptions sur des situations de troisième et quatrième essai. C'était pas nécessairement un contexte rassurant. C'est pas comme si un coach dit « Écoute, on va y aller, l'attaque a tellement le momentum en ce moment qu'on veut pas briser le rythme. » Là, c'était pas ça du tout. Donc, la décision, pour moi, s'explique très mal. Puis, ça a été le cas pour plusieurs équipes cette année. Donc, oui, les statistiques avancées, oui, toutes les données analytiques. Je comprends qu'on intègre ça dans le football d'aujourd'hui, mais il y a encore des fois où il faut se fier à son pif, à dire « ben écoute, l'attaque en ce moment là va clairement pas bien. On va prendre les points qui nous sont donnés, là, puis on va arrêter d'essayer de voir plus puis d'être trop gourmand. » Dans le cas de Mike McCarthy, je me demande même si c'est pas un péché capital, là, la gourmandise, parce qu'il était à Green Bay, c'était son retour à Green Bay. Est-ce qu'il y a eu l'émotion là, sur le coup du moment, là, go, on s'en va et battre les Packers? Tu sais, je sais pas, on n'est pas dans ses souliers pour
non,
dire ça.
Non, en tout cas, il n'avait pas l'air satisfait. Là.
Ben, quand tu vois comment il a réagi par après en garochant ses écouteurs par terre, puis tu sais, c'était évident qu'il y avait une partie émotive là-dedans. Donc, peut-être un péché capital de gourmandise dans son cas.
Ben justement, Mathieu pose la question. Dak Prescott a des très mauvaises statistiques sur troisième et quatrième essai, des statistiques qui s'apparentent à celles de Tim Tebow. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça?
Aïe, aïe, ça, j'ai pas les stats devant moi, là. Tu sais, je parle de ce match-là, là, le 4 en 11.
Non, mais les trois, sur troisième, quatrième essai, là, il est à peu près à 43% de réussite, puis Tim Tebow était dans le même genre de range.
Aïe, aïe, ça, j'étais pas au courant de cette stat-là, mais c'est frappant parce que quand tu te rappelles comment Tim Tebow était mauvais jusqu'à temps qu'il reste 1 minute 52 dans un match, là. Il pouvait être pourri pendant 58 minutes. T'sais, je dirais pas que Dak en est là, honnêtement, mais c'est inquiétant. Là, sur troisième essai, ce qui manque à Dallas, je pense, c'est peut-être un autre receveur. La perte d'Amari Cooper a été sous-estimée. T'sais, t'as CeeDee Lamb qui est très bon. C'est déjà bien là, d'avoir un très bon receveur, mais Dak Prescott, traditionnellement, a toujours fonctionné avec deux puis trois bons receveurs. Là. Fait que ça manque peut-être. De là, les rumeurs d'OBJ à Dallas, là, Odell Beckham, ça va être à suivre parce que lui, il semblerait qu'il veut un contrat d'ici la fin du mois. Donc, possibilité là, de ce côté-là.
Richard Grégoire pose la question. Quelle est votre opinion sur Josh Allen? Va-t-il finir avec les Raiders? Et pourquoi...
Josh McDaniels, non?
Josh McDaniels, oui, pardon. Et pourquoi avec l'équipe en place, les Raiders ont une fiche si pitoyable?
Ouais, Josh McDaniels, écoute, moi, la semaine passée encore, je t'aurais dit, si ça continue de même, il finira pas l'année. Là, Mark Davis, le propriétaire, qui est allé avec un vote de confiance vraiment là, très, très fort. Des fois, c'est le baiser de la mort, ça, mais là, il a vraiment eu des mots forts. T'sais. Il a dit qu'il faisait un travail fantastique, que l'équipe avait fait une recherche exhaustive pour son entraîneur, puis que c'était lui qui était la solution pour le futur. Tu sais, il aurait pu juste répondre « on n'en est pas là, on réévalue les choses à la fin de l'année », donner une réponse vague comme ils font des fois les propriétaires. Là, c'était clairement pas ça. Puis, écoute, les Raiders, de ce que je lis, ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans le déménagement à Vegas. Ils sont pas nécessairement actuellement très bien placés pour payer un coach à rien faire chez lui, congédié, puis en embaucher un autre à prix encore plus fort pour relever la franchise. Semble-t-il que sans parler d'une équipe pauvre, là, c'est pas nécessairement rose-rose là, pour les années en cours. Donc ça, ça peut être un facteur aussi, là, tout l'aspect financier. Maintenant, pourquoi les Raiders ont cette fiche-là? Moi, je le comprends pas. Je suis désolé, j'aimerais répondre mieux, mais c'est un mystère. Puis je pense qu'il y a une question de coaching là-dedans. C'est le seul élément que je vois. C'est à peu près la même équipe que l'an passé, mais avec des ajouts du genre Devontae Adams à l'attaque et Chandler Jones en défense. C'était deux des plus gros coups de l'hiver, là, les Raiders. Puis l'équipe a clairement régressé, donc certainement un peu de coaching là-dedans. Il y a la ligne à l'attaque aussi qui en arrache. Mais
est-ce que
tu as
vu Derek Carr après le match quand il a fait son point de presse puis il a encore pleuré? Là, on sait que c'est un, ouais, c'est un émotif, Derek Carr, mais il a un peu laissé sous-entendre qu'il y a plusieurs gars qui se donnaient à 100%, qui avaient de la difficulté à dormir, qui prenaient des stuffs là, pour être capable de dormir puis de jouer, mais que c'est pas tout le monde dans le vestiaire qui a la même dédication, mettons.
Ouais, le même dévouement. Il a eu l'air à dire qu'il y a une question d'effort. Là. Ça, c'est bien inquiétant quand ça vient du corps arrière. Le corps arrière, on sait qu'il voit des choses pas mal. Là. Il côtoie un peu tout le monde. C'est pas super chic. Puis, en tout cas, je sais pas. Josh McDaniels, moi, j'aurais pensé qu'il ferait pas long.
Robin, lui, il nous dit « Salut la zone, ma bold prediction, Josh McDaniels est de retour l'an prochain avec les Pats. Qu'en pensez-vous?
» Tu vois, Josh McDaniels suscite plein de questions chez nos auditeurs. Salutations à Robin aussi. Bold prediction, c'est sûr que s'il s'en va des Raiders, ça va être inévitable qu'on mentionne son nom chez les Pats. C'est là qu'il a fait sa vie. Puis à chaque
fois
qu'il est
ailleurs, ça serait d'une tristesse infinie. Là, ça fait trois fois qu'il retournerait là.
Ben, ça voudrait dire quoi? Qu'il n'est pas capable de fonctionner ailleurs. T'sais, honnêtement, ce serait très décevant point de vue carrière pour lui, même s'il dirait pas, s'il dirait le contraire. Il a été avec les Rams, ça n'a pas fonctionné. Il a été avec les Broncos, ça n'a pas fonctionné.
Il a failli là, avec les Colts?
Ouais, il a failli. Ça a été tout un fiasco. Mais je m'interroge parce que les Pats, cette année, ont tout changé leur système offensif en disant « on était dû, ça faisait des années qu'on avait le même système offensif, on était dû pour un renouveau. » Est-ce que tu revires ça à l'envers en ramenant Josh McDaniels? J'ai des doutes, mais c'est sûr et certain que si Josh McDaniels, les Raiders disent qu'ils en ont assez, ben la première place que la rumeur va l'envoyer, c'est Nouvelle-Angleterre.
Merci Steph, merci à tous pour vos questions. On vous rappelle que vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions pour la zone payante. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook « Mes précieux conseils fantasy ». J'espère que ça va bien votre saison fantasy. Ou aussi, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante.
La zone payante à quebecormedia.com. Puis j'ajoute une question, je réponds en une seconde. Danny Veilleux via Facebook qui nous a écrit « Est-ce que Tom Brady pourrait venir jouer dans la NFL? » Ma réponse, impossible, Danny. Oublie ça. Ça arrivera jamais. C'était une joke. Tom Brady a juste dit après avoir gagné en Allemagne, « Moi, je commence à avoir gagné dans plusieurs pays, Allemagne, Angleterre, États-Unis. Je pourrais bien aller jouer au Canada. Ça finirait bien ma carrière. » C'est juste une joke. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. On oublie ça.
Je le vois bien. Moi, pourtant, aller à Saskatoon ou à Hamilton, le passé, c'est vendredi soir, là, à lire un playbook là, pour aller battre les Stampeders le samedi.
Ouais, s'il se ramasse là, d'après moi, il va lire plus un playboy qu'un playbook pour se divertir.
Bravo! Bravo. OK, on fait une pause là-dessus. Et on se retrouve après parce que c'est la semaine 11 maintenant de la NFL. Plusieurs bons matchs en fin de semaine, c'est le temps des prédictions, bougez pas.
I got news for you, buddy. We're gonna win the game, I guarantee you.
Vous êtes sur la zone payante en compagnie de John Colagagné et de Stéphane Cadorette, semaine 11 de la NFL, maintenant l'heure des prédictions. Roulement de tambour. OK. Jeudi, premier match. OK, ça a été quoi ta semaine? Moi, je suis 7.
Ouais, ça a été pourri. Là. J'ai 7 aussi. Ouais. Pourtant, on avait des différences. Je sais pas comment on arrive à 7 les deux. Là. peut-être que j'ai changé une affaire ou deux là, dans le journal, mais j'arrive à 7 la semaine passée. Là. Il est temps de se ressaisir.
OK, ben allons-y avec le match de jeudi soir. Green Bay Packers qui reçoivent les Titans. Ça, c'est un match qu'on aurait dit facile à prédire il y a une semaine, mais là, comme dit Aaron Rodgers, we're not dead.
Non, honnêtement, les Packers, il y a beaucoup de monde qui vont se dire que là, sont repartis, puis peut-être avec raison. Écoute, ils commencent à faire froid à Green Bay. C'est le climat dans lequel habituellement ils performent le mieux, puis leurs adversaires ont bien de la misère. Par contre, les Titans, on parlait d'équipe de finesse tantôt, c'est pas leur cas. Là. C'est une équipe qui peut jouer à peu près dans n'importe quelle condition climatique. Ils sont bien construits, bien coachés. Je sais que les Packers se sont réveillés la semaine passée, mais les Titans, c'est une équipe qui donne très peu défensivement actuellement. Une équipe sous-estimée. Moi, je vais y aller de leur côté avec le roi Henry.
Ouais, moi, j'y crois aux Packers. Là, j'ai l'impression que le ringing MVP, parce qu'il l'a un peu rappelé là, qu'il était le joueur par excellence en titre en ce moment et qu'il était capable de faire des belles choses. Là, il a quand même été mieux là, contre Dallas. Je pense qu'il va être encore mieux en fin de semaine à domicile.
Hey, une game, une chicane déjà. Une game, une chicane. Ouais.
Exact, exact. Les Packers favoris par 3, donc virtuellement une égalité. Alors, c'est un peu normal qu'on ait de la difficulté à se partager. Un match qui s'annonce serré. Un autre match qui est virtuellement une égalité, c'est les Bears contre les Falcons.
Ouais, c'est embêtant. Si je te demandais, Jean-Nic, qui a le plus de gains au sol dans la NFL dans les 5 dernières semaines? Justin Fields, mon ami. Incroyable, pareil. Hein?
Deux matchs de plus de 150 verges, puis t'as trois matchs. Avec je pense que les Bears sont sur une lancée de 5 matchs avec plus de 200 verges.
225 verges, et c'est du jamais vu dans l'histoire. C'est la première équipe qui fait ça. Les résultats sont pas forcément toujours là, mais tu sais, on sent quand même qu'il se passe de quoi de bien avec cette équipe-là. Tu sais, ça prend le bon côté. Il y a perte dans la NFL et il y a perte de belle façon. Au début, les Bears, l'attaque était tellement misérable, c'était plate à regarder, c'était épouvantable comme spectacle. On peut plus dire ça. Puis les Falcons, ben très mauvais là, défensivement. Ils donnent tout près de 400 verges par match. C'est le deuxième pire total de la ligue. Moi, je vais y aller avec une victoire des Bears, avec Justin Fields qui s'amuse encore au sol. C'est pas nécessairement un modèle viable à long terme là, de toujours courir ton corps arrière. Il va falloir le développer aussi par la passe. Mais pour l'instant, la recette peut fonctionner contre une équipe comme Atlanta.
J'ai peur que le même scénario se reproduise pour les Bears. Je pense que les Falcons vont donner beaucoup de points. Ils vont en faire aussi. Sont à domicile. Quand va arriver le moment où Justin Fields... Ben c'est facile de gagner 20 verges au deuxième quart, mais c'est moins facile quand il reste 2 minutes. Je pense que les Falcons vont gagner ça à la fin sur le fil. Les Bears sont pas encore capables de gagner des matchs serrés. Victoire des Falcons.
Les Ravens.
11 points favoris contre les Panthers à domicile.
Ouais, je pense que c'est ça la question de ce match-là. Comme on dit des fois, là, c'est pas qui va gagner, c'est est-ce qu'ils vont couvrir l'écart. J'y vais avec un oui dans les deux cas, moi. Victoire des Ravens par un bon 2 touchés. Écoute, les Panthers, à leurs 3 derniers matchs, ils ont donné 182 verges par la course en moyenne. T'sais, là, tu vas jouer vraiment dans les talles des Ravens. Une équipe qui aime courir avec la balle, avec Lamar Jackson, avec Kenyon Drake. Donc, victoire Ravens, tout simplement. Oh, petite note, c'est Baker Mayfield qui revient au poste de corps pour les Panthers, mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit.
Les Panthers sont quand même le fun à regarder. Je sais pas si tu vois un peu les matchs des Panthers, mais à part le 1 qui ont perdu 2 semaines, je pense qu'ils ont fait 3 ou 6.
Contre les Bengals, là, ils sont fait assez rincés, ouais.
Mais c'est quand même une équipe qui est pas désagréable à regarder. Mais ceci étant dit, je parlerai pas trop longtemps, mais les Ravens, moi je trouve que plus la saison avance, plus ils sont solides. Victoire des Ravens, c'est pas une difficile à prévoir. Les Bills, hey, celle-là par exemple.
Ouais.
Là, Les Bills sont favoris par 9 points, en tout cas à l'heure où on se parle, contre les Browns à domicile. Ils annoncent, je suis quoi, 3 pieds de neige?
Ah, écoute, là, ça varie de partout. Moi, hier, j'ai vu jusqu'à 6 pieds de neige, c'est ridicule. Mais je pense que c'est dans les jours menant au match aussi. C'est pas 6 pieds dimanche. Mais même à ça, 6 pieds, on s'entend que ça arrivera pas. C'est souvent des prévisions un peu dramatiques, puis il y a moins de neige qu'on pensait, mais il va y avoir de la neige, ça c'est sûr. Ça va affecter le pointage. Je pense qu'on va avoir droit à un match à bas pointage. On verra pas les Bills spectaculaires, probablement, là, qu'on a vu depuis le début de l'année. C'est pour ça que l'écart de 9 me paraît gros. Pas parce que j'adore les Browns puis ce qu'ils font cette année, mais parce que si ça court et court et court avec le ballon puis qu'il y a de la neige partout, ben écoute, ça peut même être un match qui finit, je sais pas, moi, 10 à 9. Là. Ce serait pas impossible. Donc, c'est le genre de match que j'entrevois, sauf si les météorologues se plantent. Là, ça peut aller beaucoup plus haut que ça. Mais je vais y aller avec une victoire des Bills de façon plus serrée là, que ce à quoi les preneurs au livre s'attendent.
Moi, le monstre à deux têtes à Cleveland. Cleveland est souvent sous-estimé cette année. Ils ont une bonne équipe. Jacoby Brissett aussi est capable d'aller gagner des verges au sol. Si on a les conditions météo qu'on prévoit, là, j'ai plus confiance aux Browns qu'aux Bills de remporter des verges importantes. Sont plus imprévisibles qu'on pense au jeu au sol. Ils vont rebondir après leur défaite. Victoire des Browns, mon cher!
3 défaites de suite pour les Bills dans son cas, là. Ouh.
Oui, moi je pense que les Bills, là, ils vont connaître de l'adversité. Ça sera pas mauvais pour une équipe qui a des grandes aspirations. Victoire des Browns. Si la météo est horrible, si la météo est belle, je vais peut-être changer mon call dernière minute, mais s'il y a de la neige au sol et du vent, victoire des Browns. On s'en va à Houston, mon cher, parce qu'il y a un QB Controversy à Washington. Qui sera le carrière pour affronter les Texans alors que Tyler Heinicke vient de battre les Eagles?
Ouais, Heinicke qui a été confirmé par contre cette semaine.
J'avais vu qu'il y avait encore un doute.
Il y a quand même une controverse parce que Carson Wentz est prêt à revenir, puis je pense que les Commanders ont quand même payé pour avoir ses services, donc... Il y a certainement des gens à l'interne qui se disent « Non, il faut qu'il joue. » Mais Tyler Heinicke, ben c'est la même chose qui se produit depuis quoi, 2 ans maintenant. Là. Il joue en montagne russe, mais les moments forts qu'il a sont tellement forts qu'on se dit « Ah, ce gars-là va arriver à quelque chose, ça se peut pas. » Puis, paf, après ça, il se plante. On revoit le vrai Tyler Heinicke. Tu sais, mais il joue avec passion, il joue avec... caractère.
Tyler Heinicke, il dit, il joue chaque jeu comme si c'était son dernier.
Ouais, c'est un peu ça, parce que c'est pas le plus talentueux de la Terre, là. C'est un bon petit corps arrière, mais je veux dire, faut pas se faire d'accroire, c'est pas Patrick Mahomes, là, non plus. Mais il a l'air d'inspirer les siens. Ça, on va y donner, là, honnêtement. Il a l'air d'inspirer les Commanders, puis je vois pas comment ils peuvent aller perdre ce match-là, même à Houston. Là, on parle pas d'une terre hostile non plus. Puis les Texans qui ont tout simplement pas assez d'armes pour rivaliser. Donc, je vais y aller avec les Commanders.
Davis Mills, je pense que c'est un de ses matchs les plus importants de sa carrière en fin de semaine. Faut qu'il gagne, faut qu'il montre qu'il est capable d'être un corps arrière dans la NFL. C'est pas pour les Titans, c'est pas pour les Texans, c'est pour une autre équipe. Mais faut qu'il démontre quelque chose. Mm-hmm. Sont à domicile, ils ont un bon jeu au sol, Washington, short week, reviennent beaucoup d'émotions. Tyler Heinicke, je l'adore, mais il n'y a pas des grands matchs quand même. Là. Tu sais, là, il commet des erreurs, puis il a gagné quand même sur une pénalité qu'il est allé chercher de façon un peu bizarre.
Ouais, c'était show-off pas mal, mais qu'est-ce que tu veux, Brandon Graham, l'autre bord, là?
Ah,
un vétéran de je sais pas combien de saisons. Tu n'as pas le choix de caler cette pénalité-là. C'est plate là, parce que ça a fini un match un peu en queue de poisson, puis Tyler Heinicke célébrait comme s'il avait gagné le Super Bowl. Mais ça fait partie du personnage. Puis là, je pense que les arbitres n'avaient pas le choix. Là.
Non, non, il n'y avait pas le choix. Mais cette semaine, à Houston, ils vont revenir un peu flat. Victoire des Texans. Et monsieur, je te dis qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde cette semaine, mon Steph.
Non, là, je pense que tu essayes de rattraper l'écart du début de l'année. Là.
Ouais, mais pourtant, on s'en va à Indianapolis. Ben, garde, là, t'as une chance d'être différent de moi. Là, toi qui plaide pour un coach qui est toujours invaincu en plus. Là.
Hey, le seul coach invaincu de la NFL, Jeff Saturday. Hey, honnêtement, là, un accomplissement. Non, mais je pense qu'il va trouver que c'est plus difficile là, contre un vrai club qui n'est pas en déroute. La semaine passée, c'était les Raiders. Lui-même avait dit quelques semaines plus tôt, « The Raiders look horrible », oublie pas. Donc, ça s'est confirmé. Mais là, tu t'en vas voir les Eagles. Puis je pense que les Eagles, honnêtement, là, la défaite pouvait pas mieux tomber. Il n'y a jamais une belle défaite, là. Mais c'est un club peut-être qui était trop pris là dans le « Ah, ils sont beaux, ils sont bons, ils sont fins, ils sont forts, ils ont de la belle profondeur. » Tu sais, tout était beau autour d'eux autres. Est-ce qu'ils peuvent, là, ça commençait tranquillement, là. Est-ce qu'ils pourraient avoir une saison parfaite? Puis c'est quand qu'ils pourraient perdre leur premier match? Les gens examinaient leur calendrier à l'avance. La défaite est arrivée. T'enlèves ce fardeau-là de un, là, d'une possible saison parfaite. Là. Tu veux pas avoir à répondre à des questions là-dessus au mois de décembre. Ça te fait dévier de ton objectif. Puis deux, écoute ça, là, quelle belle façon de les ramener sur terre parce qu'ils ont extrêmement mal joué contre les Commanders. Je pense que c'est en plein la claque d'en face qu'il leur fallait. Ils vont rebondir fort contre les Colts.
Oui, moi aussi, je mets les Eagles. Peut-être moins confiant que toi. Là. C'est comme si il y a eu des erreurs mentales, des revirements. Je trouve que... Ils ont été malchanceux, mais je pense qu'on voit les vrais Eagles. C'est pas une équipe invaincue. Là, tu sais, là, c'est une équipe, une très bonne équipe là, qui va faire les séries, mais un prétendant au Super Bowl, je sais pas. Peut-être qu'ils vont avoir une fin de saison un petit peu plus difficile que la première moitié. Victoire des Eagles. Les Pats. Deux équipes qui étaient en bail et qui sont prêtes à s'affronter cette semaine. Ouais. Les Jets contre les Pats à Foxborough. Les Pats match. Favoris par 3.5.
Ouais, un match vraiment important, là, parce qu'écoute, les Pats sont dernier de division avec une fiche positive. Il faut le faire quand même. Là. C'est une grosse, grosse division dans l'Est cette année. Je sais que les Jets, c'est plus les Jets d'antan là, qui se font battre à plate couture tout le temps contre les Pats, mais quand même, il reste qu'il y a une séquence victorieuse du côté des Pats. Là, on parle de 13 matchs de suite remportés face aux Jets. Puis, une statistique qui m'a fasciné, moi, par rapport à Bill Belichick. Depuis qu'il est coach, depuis 2001, c'est-à-dire depuis que les Patriots fonctionnent très bien, disons-le comme ça, fiche de 53 victoires, 5 défaites à la maison contre des carrières de première ou deuxième année, ce qui est le cas de Zach Wilson. Honnêtement, à un moment donné, ça ment pas. Zach Wilson, justement, qui est 0-3 face aux Pats, 7 interceptions dans ces 3 défaites-là, c'est un mystère qui n'a pas encore été capable là, de résoudre. Donc, même si j'aime beaucoup ce que les Jets font cette année, puis que c'est une équipe en pleine ascension, je vais encore y aller avec le bon vieux Belichick là, dans ce duel.
Ça sera pas facile pour Mac Jones.
Non.
Il va falloir qu'il limite les erreurs. C'est pas sa spécialité dernièrement. Les Pats, je vais donner la victoire aux Pats parce qu'ils reviennent de bail, puis ils sont préparés, puis ils vont gagner un match à bas pointage. Mais merci à Zach Wilson là, qui sera pas capable d'aller mettre 25 points au tableau parce que si les Jets mettent 25 points, ils gagnent ce match-là. Victoire des Pats. Les Rams. Ah, les Rams. Ah, oh, c'est affreux. C'est comme si on parle des Rams, les champions du Super Bowl les plus gênants depuis longtemps, s'en vont négliger affronter les Saints.
Hey, c'est pas drôle pareil, là, parler des Rams comme ça. C'est les champions, mais ils sont méconnaissables. Il y en a plusieurs qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là. C'est la ligne à l'attaque, honnêtement. Ils sont plus capables de protéger le corps arrière. Il y a zéro jeu au sol. La ligne à l'attaque fait toute la différence du mauvais bord pour eux cette année. Il y avait des départs, mais il y a eu aussi beaucoup de blessures depuis. C'est vraiment là, c'est une très mauvaise situation. Puis là, en plus, les Rams qui ont perdu Cooper Kupp pour, je pense que c'est au moins 4 semaines avec une blessure à la cheville. Écoute, il y avait à peu près 70% des passes en sa direction là, du côté des Rams. Je vois pas comment ils peuvent se sortir de là. C'est pas comme si les Saints étaient une grande équipe, mais dans ce duel-là, sans Cooper Kupp, hein, moi, je vais favoriser les Saints.
Tu sais, là, depuis le début de l'année, je vois les Rams retourner au Super Bowl. Je pense que le coaching est bon. Là, plus ça va, moins je suis confiant. Je pense que le coaching est encore bon. Chaque semaine, je leur ai fait confiance quand même en me disant qu'ils vont avoir un peu d'attaque qui va aller chercher suffisamment de points pour laisser jouer la défensive puis créer des revirements. Mais à chaque fois, c'est pas le cas. Je vais espérer que c'est cette semaine. Une dernière fois, Matthew Stafford est supposé revenir cette semaine. Victoire des Rams, même s'ils sont négligés par 3 points en Nouvelle-Orléans. OK. Les Lions contre les Giants. Les Giants ouais. Favoris par 3.5, pas plus que ça pour une équipe qui est...
Sont 7-2. Oui, c'est une bonne fiche, mais c'est pas une équipe qui explose ses adversaires non plus. Fait que, je suis pas forcément surpris de l'écart qui est prévu. Court très bien avec le ballon. Là, Saquon Barkley, je pense qu'il est rendu à 4 matchs de plus de 100 verges au sol. Puis les Lions, de leur côté, tu regardes, puis c'est l'inverse. Là. C'est une équipe qui, une seule fois, n'a pas donné 100 verges au sol cette saison. Pour moi, 1+1=2. Donc, Saquon Barkley va prendre encore une fois le contrôle de ce match-là. Victoire des Giants.
Victoire des Giants, dans mon cas aussi. C'est malheureux là, pour les Lions qui ont une petite séquence. Ils jouent pas mal. Puis je pense que DeAndre Swift aussi, s'il peut reprendre... revenir en santé là, puis prendre beaucoup de workload derrière la ligne, ça serait bien pour eux, mais ce ne sera pas le cas encore cette semaine. Victoire des Giants. Et là, le Sad Bowl peut-être là, entre les Broncos et les Raiders.
Ah, oh, c'est pathétique ça. Écoute, Nathaniel Hackett, le coach des Broncos, as-tu vu ce qu'il a dit hier?
Non.
Il a résumé ça parfaitement. C'est sa meilleure citation de l'année. Il a dit « Il va falloir qu'une de ces deux équipes gagne ce match-là. » Ça veut tout dire.
Il est lucide, au moins.
Ah oui, il voit ce qui se passe, il n'est pas fou. C'est les deux clubs là, les plus en déroute là, actuellement, on dirait. Là. Puis, ben, en tout cas, il y a des pires clubs qu'eux autres, mais sont extrêmement décevants par rapport aux
attentes. C'est ça, c'est des clubs qui sont décevants.
Oui, les attentes étaient élevées et ils répondent clairement pas. Il y a une chose qui tue les Broncos depuis le début de l'année, c'est les sacs du corps, la ligne à l'attaque qui accorde beaucoup, beaucoup de pression. Et la bonne nouvelle, c'est que les Raiders sont bons derniers dans ce niveau-là. Ils produisent pas de sacs, produisent pas de pression. Donc, je vais y aller avec une victoire des Broncos.
Tu sais, ils produisent beaucoup de sacs, là, mais tu sais, il y a des fois, là...
Russell Wilson pogne à trop le ballon longtemps.
Ben, c'est ça, là. Tu sais, là, on dirait qu'il compute pas, là. Je sais pas s'il y a de la difficulté avec l'attaque que s'est instaurée son nouvel entraîneur, sa nouvelle équipe à l'attaque, mais à un moment donné, il peut pas garder le ballon 14 Mississippi, là.
Non, c'est long à processus. Le processus de penser quand il y a le ballon est très long.
Ça, bon, mais écoute, soit je l'avais laissé blanc. Là. Je ne sais pas encore qui je vais prendre. Je pense que je vais y aller avec Denver. Ils sont à domicile. Les Raiders. Ouais. Mais les Raiders, c'est leur dernière chance. Ils sont 2-7. Ils ont eu un gros speech de leur carrière. Garde, je change d'idée, je vais avec les Raiders.
Oh!
Hey, victoire semaine, des Raiders, là. Les Broncos, j'y crois plus. Ça fait plusieurs fois que je les prends. J'ai des joueurs des Broncos dans mes poules. Tout va mal. Broncos country, let's ride. Cowboys, son favori à domicile quand ils s'en vont jouer contre les Vikings à Minnesota. Dans le dôme, ça rassure les preneurs au livre, mais les Cowboys sortent d'une défaite puis les Vikings d'une victoire incroyable.
Oui, là, il y a toujours le danger, après une victoire très émotive comme ça, de tomber flat un peu. Là. Ce ne serait pas la première fois, tout sport confondu, qu'on voit ça. Cela dit, les Vikings habituellement jouent encore mieux à la maison. Ils sont 10-2 à leurs 12 derniers matchs au Minnesota. Les Cowboys qui jouent vraiment bien là, défensivement la semaine passée, bon, un peu moins évidemment. Mais ils sont exploitables par la course. Là. Ils donnent 143 verges par match au sol. Je pense que c'est Dalvin Cook qui va faire la différence dans ce match-là. Moi, j'y vais avec les Vikings. Les preneurs au livre me démontrent que les gens les prennent pas encore au sérieux malgré ce qui est arrivé la semaine passée. Là. Peut-être qu'il y en a qui disent « Ah, ils ont été chanceux. Normalement, Josh Allen n'aurait pas échappé le ballon dans la zone début. » Mais il reste qu'ils l'ont gagné, ce match-là. Je vais leur faire confiance, moi, même si ça va pas être facile.
C'est quoi l'état de santé de Jefferson? Hein?
Ouais, là, il y a ça là, qui va être à surveiller. Il y a une blessure, je pense, à l'orteil. Et on pense pas, là, pour le moment, que ça va compromettre sa présence dans le match. Mais c'est à surveiller. Puis l'autre chose qui est à surveiller, le bloqueur à gauche, Christian Darrisaw, qui est actuellement le bloqueur le mieux coté par PFF, Pro Football Focus, dans la Ligue. Lui a subi une commotion la semaine passée. Est-ce qu'il va être en uniforme? Ça, ça pourrait faire une grosse, grosse différence contre le pass rush des Cowboys, qui est très féroce. C'est les deux éléments à surveiller. Donc, j'y vais avec les Vikings, là, mais je pense que ça pourrait être très compliqué.
Ouais, les Cowboys qui affrontent une équipe de la même division que la semaine passée, avec le même, tu sais, ça reste le même style d'attaque. Quoi qu'ils sont allés beaucoup plus au sol, les Green Bay, qu'auparavant. Je pense que les Vikings vont avoir vu ça. Moi aussi, je vais avec un upset. Les Vikings vont gagner ce match-là contre les Cowboys. Et un match intra-division, Steelers contre les Bengals. Les Bengals qui reviennent d'un bye, si je ne me trompe pas.
Ouais, les Bengals qui ont profité d'un congé, ça c'est toujours bien, mais ça leur ramène pas Ja'Marr Chase, leur ace receveur. La défense des Steelers, on l'a vu la semaine passée, qui n'est pas du tout la même quand TJ Watt est là. Puis tu vas regarder les stats, tu vas dire « Ouais, mais TJ Watt n'a pas eu de sac, tout ça. » Ouais, mais sa présence change complètement la défensive. Il faut que tu l'ailles à l'œil tout le temps. T'affectes des ressources à TJ Watt en double couverture, tu sais. Donc, j'ai l'impression que ça peut faire une différence. Puis, les Bengals qui ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs à Pittsburgh, c'est une place où c'est jamais facile de gagner. Même quand l'équipe sous-performe comme cette année, la foule est là, la foule est bruyante. Tu sais, c'est des bons partisans à Pittsburgh. Donc, je vais donner la victoire aux Steelers dans ce match-là. C'est un match piège pour les Bengals.
Ouh, OK. Moi, je joue avec les Bengals. Je pense que les Bengals, excluant les Vikings, qui sont peut-être encore sous-estimés malgré leur fiche, moi, je pense que les Bengals est l'équipe la plus sous-estimée en ce moment de la NFL. Oh. Joe Burrow, après un début de saison peut-être un peu plus difficile, est vraiment sur une lancée, distribue le ballon. À la limite, sais-tu quoi, quand Ja'Marr Chase n'est pas là, ben tout le monde a le ballon, puis peut-être que l'équipe est plus cohérente, a plus de cohésion. Moi, je vais avec une victoire des Bengals reposés contre des Steelers, quand même, qui reste à mocher, puis Kenny Pickett n'ira pas chercher assez de points pour battre les Bengals. Les Chiefs s'en vont affronter Justin Herbert à Los Angeles. Justin Herbert, encore une fin de match difficile la semaine passée. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là?
En tout cas, chose certaine, on pourra pas dire dans l'environnement hostile de Los Angeles parce que le stade va être pas mal plus Chiefs que Chargers. C'est le pire avantage du terrain de la Ligue, les Chargers, dans leur stade, là, on s'entend. Donc ça, c'est pas un obstacle du tout. Ils donnent de bons matchs, les Chargers, aux Chiefs, généralement. Là. Depuis que Justin Herbert est là, bon, je regardais là, les 5 derniers matchs entre les deux équipes, c'est 3-2 en faveur des Chiefs. T'sais, c'est pas la mer à boire là, pour les Chargers, mais ils leur donnent quand même une go à chaque fois. Il y a 4 de ces 5 matchs-là qui ont été décidés par 6 points ou moins, donc avis aux parieurs qui surveillent les écarts. Là. C'est souvent très serré entre les deux clubs, mais il y a tout simplement trop de bobos là, du côté des Chargers. Je sais pas au moment où on se parle si Keenan Allen et Mike Williams vont revenir. Ça, c'est à surveiller de très près dans les prochaines heures. parce que ça peut faire toute la différence. Mais même à ça, ligne à l'attaque, ligne défensive, trop de bobos pour lutter à armes égales contre les Chiefs.
Moi aussi, victoire des Chiefs, les Chargers, Justin Herbert. Chaque semaine, je me dis, ah, là, c'est là qu'il va en voir comme un bon match clean. Tu sais, là, il me semble. Mais il n'y en a pas de match clean. On dirait que c'est toujours un brouillon, quelque chose qui va arriver. Là. Pourtant, ils ont des bons joueurs. Ils sont pas. Mais en ce moment, ils sont pas capables de faire autre chose que rester dans le match puis le perdre à la fin ou le gagner à la fin. Mais pour moi, la victoire des Chiefs. Même je pense que ce sera pas serré cette fois-ci. Les Chiefs qui vont regarder, qui regarderont pas en arrière en troisième, au troisième quart. Les Niners, lundi, l'équipe de l'heure, peut-être qu'on peut dire, parce que plusieurs les voient comme une équipe en pleine ascension, s'en vont affronter les Cards avec Colt ou avec Kyler?
Ouais, une autre situation qui est pas déterminée là au moment où on se parle. Mais Colt McCoy qui a très bien fait puis qui fait bien généralement quand il est appelé en relève là, de Kyler Murray depuis 2 ans. Une fiche de 3-1 quand même.
C'est drôle quand tu regardes ce qui se passe en Arizona, là, puis tu lis un peu les analyses des. Ça m'a intéressé cette semaine. Je vois, j'ai toujours aimé Colt McCoy. J'ai toujours trouvé qu'il était cool. J'ai toujours trouvé qu'il était. Bon, il n'avait jamais vraiment donné une chance, peut-être parce que les gens voient qu'il n'y a pas assez d'attributs physiques ou autres, mais il est tellement apprécié, il y a tellement de leadership. Ouais. Apparemment, là, tu sais, que les joueurs, là, quand Colt McCoy vont leur faire un speech, là, tu sais, ils repartent de là crinqués. Les gars veulent jouer pour Colt McCoy. Ça fait quand même un gros contraste avec Murray qui souvent
leadership contesté un peu, là, ouais. Il est peut-être pas inspirant. Là.
C'est ça.
Il y a eu toute l'histoire des clauses d'études dans son contrat, là, que c'était louche pas mal. Pas en train de dire qu'il n'y a pas de talent. Au contraire, le talent il sort par les oreilles, mais peut-être pas le plus assidu de ce qu'on comprend au fil des années.
Mais tout ça pour dire qu'il y aurait peut-être je comprends là, qu'ils ont donné un gros contrat à Murray pis ça, mais tu sais qu'il serait pas pressé de le ramener.
Ça reste à voir, mais tu sais, là, pour moi, de toute façon, là, Murray, McCoy, les Cards, je vois pas comment ils vont passer à travers la défensive des Niners. La ligne va être submergée. Là. Nick Bosa, je sais pas si tu l'as vu la semaine passée, là, il est inarrêtable.
Pour l'arrêter.
Ah, il est inarrêtable, il est complètement fou, ce gars-là. La défensive, par la passe des Niners, donne à peu près rien. Écoute, puis le dernier élément à souligner de ce match-là, parce qu'on n'en a pas parlé, après l'exotisme de l'Allemagne la semaine passée, ben c'est un Monday Night à Mexico, au Mexique. Donc, on va voir si l'environnement va favoriser l'une ou l'autre des équipes, mais c'est en terrain neutre, donc pas d'incidence, là, je pense, sur le match. Mais c'est intéressant de le mentionner. J'y vais avec les Niners, donc, comme gagnant.
Oui, victoire pour les Niners, j'en dirai pas plus. Pour toutes les mêmes raisons que toi, je pense que leur défensive, que ce soit Colt McCoy ou Kyler Murray, vont en faire voir de toutes les couleurs aux Cards. Merci Steph, on se retrouve la semaine prochaine pour des prédictions. La semaine 12, il en restera plus beaucoup. On va voir les résultats cette semaine, on a plusieurs différences. Bon, si jamais vous avez des commentaires sur nos prédictions, n'hésitez pas, hein, on est toujours curieux de savoir ce que vous en pensez.
Il y a trois scénarios possibles cette semaine, Jean-Nic. C'est t'as à peu près 14-14, j'ai 14-14 ou on est 7-7 dans le milieu.
Ouais. Exact.
Ça, on verra.
À voir. Merci Steph. Après la pause, on s'en va au bar. I got a hangover. Whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa. On est de retour à la zone payante et c'est la chronique au bar.
Oh boy, que ça devient suave tout ça.
Écoute mon cher, cette semaine, tu le sais, là, je l'aime. Je sais pas si je l'aime ou je la hais ou je sais plus, là, mais c'est sûr que quand...
C'est une relation complexe avec lui.
Avec ça, complexe. Parce que c'est sûr qu'un gars de mon âge qui joue encore dans la NFL, je me dis, waouh, tu sais, c'est cool, là. Je devrais quand même l'aimer, là.
T'es jaloux parce qu'il joue dans la NFL à 45 ans, alors que toi, t'as de la misère à mettre tes bas le matin.
Exact, exact. Mais je suis surtout aussi amer de toutes ces années où il nous empêchait de réussir une saison décente en nous battant deux fois. Quoique les Dolphins ont souvent eu du succès contre lui.
Ben oui.
Mais reste qu'il était toujours trôné souvent au sommet de la division. Mais cette semaine, j'envoie Tom Brady au bord.
Mais pourquoi? Il recommence à gagner, là, je comprends pas. Là.
Oui, mais je l'envoie par affection un peu, justement, pour lui. Là.
Hein?
Ouais.
Affection, je le trouve, Jean-Nic, ouais. Tom Brady, ça marche pas, explique-moi.
Je trouve qu'il est triste. Je trouve qu'il a besoin d'un petit remontant. Puis là, il y a deux choses qui se sont passées cette semaine que je vais apporter à ton attention.
Mm.
La première, je sais pas si tu as vu, mais Gisèle, là, l'ex à Tom, est en voyage avec son genre de coach de jiu-jitsu.
OK.
Elle suit des cours de jiu-jitsu, Gisèle. Elle a mis ça sur ses médias sociaux depuis plus qu'un an, là. Fait que là, n'en fallait pas moins pour que la toile s'enflamme et se dise, ah, Gisèle, fait longtemps qu'elle trompe Tom avec son instructeur de jiu-jitsu.
Bon, 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 bon. On est rendu dans le patinage, là.
Et ensuite, Tom, cette semaine, est parti manger de la pizza avec ses enfants. Mais, apparemment qu'il était de bonne humeur. Parce que lui, tu sais, avec tous ses régimes, là, la pizza, c'est pas toujours bienvenu.
Ouais,
mais il est allé prendre une pizza à Brooklyn chez De La Rocos.
OK.
Et ça a l'air qu'il aurait même pris une tarte parce que c'est ce qu'il aimerait là-bas manger.
Coudon, t'as-tu un espion qui le suit ou?
Ben, j'ai TMZ, là.
OK. C'est tout comme.
C'est tout comme. Et fait que Tom Brady aurait passé donc du temps à New York avec ses enfants pour manger de la pizza puis une tarte. Puis, sais-tu ce qu'il a bu?
Ah ben, je sais que tu vas me le dire.
Oui, mais c'est d'ailleurs ce que je vais lui proposer de faire quand il va aller au bar. Il a amené son propre drink dans un thermos.
OK.
Fait que Tom, là, tu sais, là, tu sais, c'est diète complexe, là. Mais il mange la pizza, mais il veut pas boire de Pepsi ou de Coke dans son repas avec la pizza. Donc, il a amené son propre breuvage dans son thermos. C'est ce que je lui dis de faire. Je vais dans au bar. Pense plus à l'entraîneur de Jiu-Jitsu, Gisèle. Garde-toi avec la pizza. Amène ton drink. Bois ce que tu veux. Enjoy, Tom. T'es célibataire. Un père célibataire dans un bar qui boit son thermos. Beau topo.
J'aime ça. Là, je sais plus si c'est une punition, un clin d'œil, parce que là, c'est... Mais c'était beau ce que tu as dit.
C'était
très beau.
C'était un peu un moment que je veux lui offrir.
C'est ça. Tu avais le goût de quelque chose de touchant.
Exact. De ton côté, je sais que le bar, on punit souvent des gens. On leur dit, va au bar réfléchir. Toi, qui t'as envie d'envoyer réfléchir au bord?
Ouais, parce que moi, ça va être vraiment quelqu'un qui doit réfléchir. Là. Puis, écoute, moi, c'est un inconnu. Puis, je vais vous le présenter. Kevin Stein, est-ce que ça te dit quelque chose?
Est-ce qu'il y a les Stein Brothers dans la lutte?
Non, non. Non, je pourrais pas te dire. Ça fait longtemps que je suis plus ça. Kevin Stein, qui était l'officiel responsable à la reprise vidéo lors du match épique entre les Bills et les Vikings, mais qui a failli tout gâcher en y allant d'une injustice flagrante. Je rappelle la situation, il reste 24 secondes à jouer au quatrième quart, les Bills sont en retard par 3. Il faut absolument qu'il aille faire un placement qui va amener les deux équipes en prolongation. Josh Allen tente une longue passe sur les lignes de côté vers Gabe Davis, qui attrape le ballon à première vue. Mais à l'œil nu, même à la télé, à vitesse normale, moi je me disais, écoute, on dirait que le ballon touche au sol. Il passe la reprise vidéo, on voit clairement que le ballon touche au sol, mais les Bills se dépêchent, vont à la ligne de mêlée, snap le ballon, puis eh ben il est trop tard, on peut plus annuler le jeu, mais il y avait clairement passe incomplète sur le jeu. Puis même les officiels l'ont admis. Après le match, il y avait passe incomplète. On l'a pas vu. C'était la job de Kevin Stein de demander vite une reprise vidéo dans une situation comme ça parce que c'était dans les deux dernières minutes. Évidemment, le coach des Vikings peut pas challenger. Écoute, imagine la disgrâce si les Bills avaient finalement gagné ce match-là. Ça aurait été toute une passe à la palette de M. Kevin Stein que j'envoie au bar. Et puis, il n'y aura pas de cocktail, il n'y aura pas de bière, il n'y aura rien. La punition pour Kevin Stein, faut qu'il voit plus clair, là, lui. Il faut qu'il voit plus clair, il faut qu'il réagisse plus vite. Moi, je suis préoccupé par sa sécurité d'emploi parce que j'ai de la compassion. Et puis, je l'amène au bar, mais il va devoir nous accompagner. Quand je dis « nous », mais moi, j'ai toujours rêvé de prendre une bière avec Tom Brady. Puis, puisqu'il est au bar, je me dis « on le laissera pas boire seul, mais c'est moi qui va boire avec lui ». Puis, j'ai une grosse semaine, j'ai des grosses semaines ces temps-ci, puis on va boire longtemps, moi puis Tom Brady. Je suis sûr qu'on a bien des choses à se dire, puis écoute, on a peut-être des choses en commun qu'on connaît pas, puis ça, c'est le temps là, de développer une relation, donc… Je vais boire longtemps et beaucoup avec Tom Brady, toutes sortes de choses dont je ne ferai pas l'énumération tout de suite. Puis Kevin Stein, lui, il va être forcé à s'accoter au comptoir sans droit de consommation. Je pense que c'est pire comme punition pour la bourde qu'il a commis. Donc, au bar, Kevin Stein, ça va être la première et la dernière fois, j'imagine. J'aime pas ça envoyer des inconnus au bar.
T'amèneras ton thermos, en tout cas, pour accompagner Tom.
Ouais, non, je vais être correct. On sert de bonnes choses au bar, là, avec tous les cocktails qu'on a énumérés au fil des ans.
C'est vrai, c'est vrai.
J'ai mon choix des cadeaux.
Merci, Steph. Merci à vous d'avoir été là cette semaine. C'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Zone Payante. Merci, bye.